beaucoup, mais bientôt. Alors que le discours avec Nicodème, l'enseignement avec Nicodème, la naissance, c'était le mystère de la grâce. Et ceci nous aide à mieux comprendre, du reste, comment il y a une complémentarité entre ce discours de Nicodème, ce discours de la Samaritaine à l'égard de celui de Nicodème. Et comment aussi nous comprenons l'unité de l'enseignement de Jésus à l'égard de la Samaritaine. C'est Jésus qui, au point de départ, suscite le désir et parle de son don. Ce don de la vie que lui seul peut donner. Mais pour le recevoir, il faut avoir un désir. Et la Samaritaine est dans l'état, dans un état où elle n'a plus aucun désir. Elle est réduite à la corvée d'eau au plein midi. Et Jésus lui redonne le désir. Et à partir de là, nous comprenons comment la charité fraternelle, la charité, l'agapé, doit transformer en premier lieu la vertu de religion et l'exercice de l'adoration. Le premier commandement de l'Ancien Testament, c'est un seul Dieu qui adorera. C'est la première chose. Et Jésus montre comment ce don nouveau, qui était déjà dans l'ancienne alliance, puisqu'il y avait la grâce, mais qui sera donné avec la nouvelle alliance dans une plénitude nouvelle, va assumer le commandement fondamental de l'adoration, en lui donnant une nouvelle signification, une nouvelle dimension, l'adoration en esprit et en vérité. Et cette adoration en esprit et en vérité, c'est comme la réponse que nous donnons à Dieu. C'est vraiment notre réponse. Dieu donne gratuitement l'eau vive et nous répondons à ce don en offrant toute notre vie. Par l'adoration, nous offrons notre vie. Nous remettons notre vie entre les mains du Père. Mais nous remettons notre vie entre les mains du Père sous le souffle de l'Esprit. Une adoration en esprit et en vérité. Donc, une adoration transformée par l'amour. La charité est forme de toutes les vertus. Et la charité est forme de la vertu de religion. C'est très important de saisir comment la charité est forme de la vertu de religion pour voir comment la charité donne une signification nouvelle à tous les vœux de religion et donne une signification nouvelle à l'adoration et donne par le fait même un aspect de vérité nouvelle, une vérité qui va beaucoup plus loin. Déjà, l'adoration nous met dans un état de vérité. Parce que l'adoration, c'est une attitude de la créature qui reconnaît sa totale dépendance à l'égard du Créateur. Et par le mystère de l'amour, par le mystère de l'agapé, nous pouvons reconnaître d'une manière beaucoup plus intime et plus personnelle cette dépendance à l'égard de Dieu. Nous remettre dans cette vérité pratique. On est vrai dans l'ordre pratique que quand on adore. C'est l'adoration qui rectifie toute notre vie. Quand il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de rectitude de la vie. On comprend très bien, puisque le premier commandement, c'est d'adorer. Donc, obéir, fondamentalement, c'est adorer. Celui qui n'adore plus, n'obéit plus. Puisque c'est le commandement de l'Ancien Testament, et c'est ce commandement qui est repris sous cette forme nouvelle par Jésus. Et on comprend aussi que c'est vraiment le don de l'époux. Alors là, il faut essayer d'aller le plus loin possible dans ce qui nous est montré là. Le don de l'époux, c'est le don d'amour. Et le don de l'époux, quand c'est Jésus, c'est de nous donner son amour qu'il a pour le Père. Et de nous donner gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a de plus radical dans le cœur de Jésus ? C'est adorer le Père en esprit, en vérité, dans son cœur d'homme. C'est là où Jésus nous montre la voie. Il nous indique la voie. Il n'y a pas d'autre voie pour remonter vers le Père que passer par l'adoration. C'est le cœur sacerdotal du Christ qui vient comme médiateur pour offrir cette humanité qui est dans un état de détresse, la femme, la Samaritaine, représente l'humanité. C'est l'humanité pécheresse, c'est l'humanité dans un état d'infidélité. Cette humanité qui ne sait plus où elle va. La Samaritaine ne sait plus où elle va quand Jésus la rencontre. Parce que justement, elle n'est plus aimée et elle n'aime plus. Celui qui n'est plus aimé et qui n'aime plus ne sait plus où il va. Il est errant. C'est cette humanité errante que Jésus vient reprendre. C'est cette humanité qu'il regarde. Et il va tout de suite dans ce qui est le plus profond dans le cœur de la Samaritaine, cette blessure radicale de cette femme qui ne sait plus où elle doit aller. Qui n'obéit plus à la loi de Dieu, cette adoration qu'il aurait remise dans la ligne où Dieu voulait qu'elle soit. Et c'est l'époux qui donne gratuitement cet amour au moment du plus grand désespoir, de la plus grande déroute. Et c'est ça qui est peut-être très important à saisir. C'est que si Dieu permet certaines situations limites, qui est tout proche du désespoir, c'est pour pouvoir communiquer gratuitement son amour. C'est le mode de la gratuité qui, à ce moment-là, se manifeste le plus. Et aussi, à cause de cette situation limite, il peut tout refaire. On peut tout refaire dans la mesure même où, justement, on est dans un état de pauvreté radicale. Si on n'est pas dans cet état de pauvreté radicale, on ne peut pas être entièrement repris. Et la Samaritaine peut être entièrement reprise, on le voit bien, puisque immédiatement elle reprend son problème qui était le problème de sa jeunesse, qui était le premier problème. Faut-il adorer à Jérusalem? Faut-il adorer sur les hauteurs? C'était le problème qui mettait en elle sans doute ce doute. Et Jésus reprend radicalement son cœur par ce don gratuit. La nouvelle alliance ne supprime rien à l'ancienne alliance, mais va beaucoup plus loin et reprend tout radicalement par le mystère de l'adoration. L'épouse n'est épouse que quand elle fait la même œuvre que l'époux. C'est le propre de l'alliance de l'époux et de l'épouse. L'épouse doit faire l'œuvre de l'époux en complétant l'œuvre de l'époux. Et je crois que la première chose que l'époux demande à l'épouse, c'est justement de réaliser ce pourquoi il est venu, adorer le Père. Adorer le Père de cette adoration en esprit et en vérité. Ce qui est le plus radical dans le cœur de Jésus, c'est son adoration pour le Père. Cette adoration immense. Et l'épouse doit finir cette adoration. Elle doit faire la même œuvre, doit adorer. Et Jésus fait cela pour que l'épouse entre pleinement dans le désir le plus profond de son cœur. Que l'épouse prenne possession de ce désir du cœur de Jésus et le réalise à sa manière. Là, nous pourrions dire, vous voyez, que l'épouse va compléter l'œuvre de l'époux par cette adoration et en même temps répondre au désir du Père en adorant le cœur de Jésus. Jésus ne demande pas à la Samaritaine cela, parce que nous sommes là qu'au point de départ de l'Évangile. Mais on pourrait dire que c'est déjà impliqué dedans. L'épouse ne sera parfaitement épouse que quand elle sera une avec l'époux, faisant la même œuvre que lui. Et pour être une avec l'époux, puisque cet époux est Dieu, il faut reconnaître qu'il est Dieu. Et on reconnaît qu'il est Dieu en adorant. On ne peut reconnaître Dieu que par l'adoration, puisque c'est l'acte qui lui est propre. On ne peut adorer que Dieu. Et c'est pour ça que si on n'adore plus Dieu, on ne reconnaît plus Dieu comme Dieu. C'est la connaissance pratique, affective, par laquelle nous reconnaissons Dieu, par laquelle nous lui donnons ce qui lui est dû. C'est en ce sens que la vertu de religion est comme une vertu de justice, comme dira saint Thomas. Parce qu'on rend à Dieu son dû. Le dû qui est propre à Dieu, c'est de l'adorer. C'est le dû par rapport au Créateur. Reconnaître qu'il est Dieu. Et c'est par l'adoration que nous sommes un avec Jésus, dans la mesure où nous l'adorons, et que nous pouvons alors à ce moment-là faire œuvre commune avec lui. Et compléter son œuvre. Achever son œuvre. Je crois que c'est cela qui nous est montré en premier lieu. Et il s'exprime alors la grande joie du cœur du Christ. Et cette grande joie du cœur du Christ, elle est manifestée aux apôtres. La grande joie du cœur de Jésus, c'est de pouvoir communiquer ce secret le plus intime de son cœur, cette exigence de l'adoration à l'esprit en vérité. Et nous voyons alors là, ça fait partie, si vous voulez, encore de cet enseignement, mais qui n'est plus directement le lien de Jésus par rapport à la Samaritaine, c'est par rapport aux apôtres. Alors je crois que là, il y a aussi quelque chose qui est important pour nous à comprendre. D'abord, que Jésus, lorsqu'il s'agit de ce don de l'amour, et quand il s'agit de cette adoration, Jésus agit seul. Il n'agit plus avec les apôtres. Autrement dit, au-delà de l'aspect communautaire, il y a ce lien personnel qui est radical. Et c'est ce lien, c'est justement ce lien dans une adoration en esprit et en vérité. Jésus devait être seul avec la, pour rencontrer la Samaritaine et pour lui donner cet enseignement. Et Jésus exprime aux apôtres et fait comprendre aux apôtres qu'en faisant cela, il accomplissait la volonté du Père. Il était envoyé pour cela. Et qu'en réalisant la volonté du Père, c'est sa nourriture. Alors nous aurons l'occasion d'y revenir, cela, parce que c'est quand même important de voir que l'obéissance est considérée comme une nourriture. C'est parce que cela qu'on peut dire que l'obéissance fortifie notre cœur et nous permet d'aller le plus loin possible dans l'espérance. Dans la mesure où il y a obéissance, on est nourri. Quand il n'y a plus l'obéissance, comme quand il n'y a plus l'adoration, quand il n'y a plus l'adoration, on est errant. Quand il n'y a plus d'obéissance, on est faible. Il y a une faiblesse. Notre espérance n'a plus la force qu'elle devrait avoir. c'est l'obéissance qui fortifie. Et c'est, je crois, cette affirmation que notre Seigneur montre ici. Moi, j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. Mon arrivée, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et par l'obéissance, on est toujours vers quelque chose d'ultime, quelque chose de dernier. C'est un lieu très important pour la théologie de l'obéissance. Hein. Si on veut saisir vraiment ce que c'est que la théologie de l'obéissance, c'est sûrement un lieu très important. Parce que nous voyons que par l'accomplissement de cette volonté du Père, donc en obéissant au Père, on est en présence de quelque chose d'ultime. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois, et la moisson vient. Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes, elles sont blanches pour la moisson. Alors ici, à la fois, on voit le regard tout à fait différent de Jésus et des apôtres. Ils regardent la même réalité, mais sous deux aspects tout à fait différents. L'un voit que la moisson est blanche, et l'autre encore 4 mois. C'est pour nous faire comprendre le rythme profond du cœur du Christ, qui n'est plus celui des apôtres. C'est la première fois que les apôtres ne sont plus en harmonie parfaite. C'est curieux. Ils sont plus en harmonie parfaite avec le cœur de Jésus. Jusque-là, on n'a pas vu cela, ça n'a pas été dit. Tandis que là, on le voit. Et il s'agit de l'accomplissement de la volonté du Père dans la vie apostolique de Jésus. C'est dans sa vie apostolique et par rapport à son obéissance, par rapport au Père. Je crois que ce serait très important de creuser ça. Les apôtres sont pris, eux, par des choses secondaires. Et quand on est pris par les choses secondaires, on n'a plus le regard du Christ. Ce qui caractérise le regard du Christ, c'est toujours d'aller, de toucher ce qu'il y a d'ultime, la volonté du Père. Et dans la volonté du Père, de comprendre qu'on est en face de quelque chose d'ultime. Si on ne voit plus cette volonté du Père, on voit en premier lieu les moyens, les méthodes, les choses que nous pouvons faire immédiatement selon notre conditionnement humain, et nous ne voyons plus la finalité. Et je crois que c'est là où on voit la distance entre le regard du Christ qui regarde le point de vue de l'amour et qui regarde tout ce point de vue de l'amour et de la finalité, et le regard des apôtres, qui regarde le point de vue du conditionnement encore 4 mois. Et Jésus, parce qu'il est dans ce regard du Père, dans ce regard du Père, on est toujours en face de la moisson. On n'a pas à attendre. On est toujours, la moisson est blanche. Et c'est là où on voit très bien qu'il n'y a pas de perte de temps. Et que toutes les pertes de temps, c'est nous regarder. C'est notre conditionnement humain. C'est regarder les choses d'un point de vue temporel. Alors ça, c'est une perte de temps. Alors que Jésus regarde tout dans cette lumière ultime de la volonté du Père, alors la moisson est blanche. C'est quand même très très significatif. Hein. Il faudrait regarder là les grands passages de l'Apocalypse qui montrent tout pour le point de vue dernier de la moisson. L'espérance eschatologique, c'est une espérance qui nous fait toujours regarder la chose ultime. Et la chose ultime, elle est présente. Tandis que lorsque nous regardons d'un point de vue humain, nous disons oui, maintenant, ça, puis après. C'est là le regard, vous voyez, je crois, des vertus théologales. Les vertus théologales sont toujours ultimes. À la différence des vertus morales, qui sont toujours, elles, selon le point de vue de la prudence, et donc selon un certain ordre, un certain conditionnement humain. L'université de la vont immédiatement au but. Et ce qui peut montrer d'une façon e talvolta è la Gesù souligne car en cela le proverbe véridique autre le sonneur, autre le moissonneur, moi je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous, vous n'avez pas peiné, d'autres ont peiné, et c'est vous qui profitez de leur peine. Le propre de la vertu théologale, c'est justement de faire que celui qui sème et celui qui moissonne vont être ensemble. À la différence du proverbe. C'est très amusant, c'est très curieux ce passage, c'est très intéressant. Chaque fois qu'on voit que Jésus prend un proverbe, vous comprenez bien, le proverbe n'est pas la révélation. Et le proverbe est donné pour que nous comprenions la révélation. Le proverbe est donné au niveau propre d'une prudence. Tous les proverbes, c'est la prudence, hein. Tous les proverbes expriment une prudence humaine, une prudence ancestrale. Alors, ce sont des proverbes. Et les proverbes montrent bien, il faut attendre celui qui sème, celui qui moissonne. Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Il y a le temps entre les deux. Et exactement comme il y a le proverbe pour les Azotamades. Hein. Vous trouvez cela. C'est pour ça que je vous disais, là, il n'y a pas d'herméneutique. Parce que les proverbes, on reconnaît que les proverbes sont au-delà du temps. Et que c'est toujours la même chose parce que ça traduit tout simplement le bon temps des hommes. Le regard de Dieu est au-delà. Ça qui est étonnant. C'est le propre des vertus théologales. Les vertus théologales font regarder verticalement et non plus horizontalement. Alors, verticalement, c'est Jésus qui sème et c'est Jésus qui moissonne. C'est pas deux ou deux, hein. Non, c'est Jésus qui sème et c'est Jésus qui moissonne. Et si on agit sous le souffle de l'Esprit-Saint et en dépendance de l'Esprit-Saint, on sème ou on moissonne. Parce que c'est toujours quelque chose d'ultime. Et que notre tentation permanente, c'est toujours de mettre les deux avec un temps entre les deux. Mais ça, c'est le point de vue humain. C'est le point de vue humain qui remet et qui reprend. On vit au niveau des traditions religieuses. On vit au niveau des traditions humaines. On vit au niveau de notre conditionnement humain. Alors on est au niveau des problèmes. C'est très bien au point de vue de la prudence humaine, mais ce n'est pas divin. C'est un autre regard. Les vertus théologales nous font regarder divinement ce qui est proche de nous, ce qui est loin de nous. Et nous donne le regard du Christ. Alors je crois que ça c'est très très fort, hein, pour essayer de comprendre un tout petit peu ce que c'est que la hâte du Christ comme apôtre. C'est la hâte du Christ comme apôtre. Hein. Alors on le retrouve dans l'Apocalypse, ça c'est très net. Et il faudrait mettre les deux en parallèle, hein, pour qu'on comprenne bien. Je ne veux pas m'attarder parce que je ne veux pas aller trop tôt. Mais c'est important de souligner ce passage curieux où Jésus révèle l'intention profonde de son cœur d'apôtre. Alors, je crois qu'on peut, comme toujours, si vous voulez regarder le sens mystique, ce que je vous ai dit, saint Thomas le donne à propos des noces de Cana, il suffit que nous continuions, hein, de regarder le sens mystique. Quand il s'agit d'un dialogue, le sens mystique est toujours présent dans un dialogue doctrinal. Le sens mystique est donné immédiatement. Le sens mystique, c'est évidemment la charité. C'est la charité qui fait que le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, c'est ce mystère de la charité et du rayonnement de la charité, de l'emprise de la charité en nous. Et je crois qu'on peut aussi, pour découvrir le sens mystique, nous servir de ce que dit saint Augustin, pour comprendre parfaitement et pleinement tous les gestes du Christ dans sa vie apostolique. Et pour comprendre pleinement et parfaitement tout l'enseignement du Christ dans sa vie apostolique, il faut le regarder dans la lumière de la croix. Ça, c'est un grand principe d'exégèse de saint Augustin. Cette main ne me reprend pas, mais c'est, je crois, très juste. C'est quelque chose qui va très loin de dire cela. C'est que toute la vie apostolique de Jésus, eh oui, elle est ordonnée à la croix. Crois-moi, femme, elle vient l'heure du Christ, c'est la croix. Et dès que Jésus agit au bon Dieu apostolique, c'est son heure. Oui, déjà un canon. C'est l'heure. Elle vient l'heure où ce n'est ni Jérusalem, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Alors il faut bien comprendre. Oui, la même de l'adoration, c'est la croix. S'il s'agit d'adorer comme Jésus adore, il faut regarder le mystère de la croix. Et c'est vraiment dans le mystère de la croix que nous comprenons cette nouvelle adoration en esprit en vérité. Où nous comprenons que cette adoration est un holocauste d'amour qui demande l'holocauste complet de tout nous-mêmes. On est entièrement offert, entièrement donné. Et c'est dans la lumière de la croix que nous devons saisir ce que Jésus dit ici à la Samaritaine. Adorer en esprit, en vérité. Dieu est esprit. C'est parce que Dieu est esprit que le Père peut demander à son Fils l'holocauste de la croix. Parce qu'il est esprit et amour. Alors il peut demander cet holocauste de la croix. Et cet holocauste de la croix nous fait découvrir l'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père. On peut dire aussi qu'à la croix, c'est le discernement ici, le dernier. C'est le jugement. Alors, on peut comprendre cette rencontre de Jésus, ultime et dernière, avec l'humanité. C'est quand l'humanité sera dans cette situation limite que Jésus reviendra dans sa gloire. Situation limite de la femme, n'ayant comme seule richesse la technique. Elle a perdu son âme. Ce que nous voyons aujourd'hui. L'humanité perd son âme, elle perd le sens de l'adoration. Elle ne sait plus où elle va. Alors la seule supériorité, la technique. Et c'est à ce moment-là où Jésus revient dans sa gloire. Au moment où il surprend l'humanité en flagrant délit d'infidélité. La fidélité fondamentale, c'est l'adoration. On est fidèle dans la mesure où l'on adore. Et alors, cette femme qui ne sait plus où est l'amour et qui n'a qu'une seule préoccupation, cette corvée d'eau, pour survivre, c'est à ce moment-là où Jésus la regarde en époux et lui fait comprendre son amour et lui donne gratuitement l'eau vive. Je crois que nous pouvons nous servir de ce dialogue de Jésus vis-à-vis de la Samaritaine pour mieux comprendre ce qu'est le jugement de Jésus sur l'humanité. La femme représente l'humanité, comme l'enfant et comme l'homme. Ce que je vous ai dit, l'humanité, c'est les trois concrètement. Et le regard de l'époux, de Jésus qui vient comme juge, c'est ce regard de Jésus vis-à-vis de la Samaritaine. Cette humanité qui ne sait plus où elle va. Cette humanité errante. Et Jésus vient lui donner le sens de sa vie en apportant cet amour gratuit. Et en demandant cette exigence de l'adoration en esprit et en vérité. Alors je crois que là nous avons ce sens mystique dernier de ce dialogue, dans la lumière de la croix, et dans la lumière de la croix en tant que Jésus nous fait comprendre ce qu'est l'adoration et comment Jésus dans la lumière de la croix est le juge. Il est le roi à la croix, hein, faut pas l'oublier. Or, c'est le sacerdoce royal qui juge. C'est en tant que roi que Jésus a le dernier discernement et le dernier jugement. Et c'est donc bien là où nous voyons ce discernement ultime de Jésus sur l'humanité. Sur cette humanité pécheresse, sur cette humanité qui est infidèle, cette humanité qui successivement, par cinq fois, a perdu la fidélité. Les cinq âges de l'humanité, dans les infidélités, qui s'accumulent. Et c'est à ce moment-là, cette infidélité dernière, cette infidélité ultime, et elle est réduite à la corvée d'eau en plein midi. C'est à ce moment-là que Jésus la regarde, la réveille. Pour moi, lui dire de moi à moi. Ensuite, nous avons la rencontre de Jésus de nouveau à Cana. À l'égard de l'officier royal qui vient le trouver. Après ces deux jours, il partit de là pour la Galilée, car Jésus lui-même avait attesté qu'un prophète ne jouit d'aucune estime dans sa propre patrie. On sait très bien que ça peut se comprendre pour Nazareth, ça peut se comprendre aussi, nous allons le voir, pour Cana. Ça s'est compris pour la Samarie. Jésus n'était pas dans sa patrie à sa Samarie. Lors donc il vint en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil pour avoir vu ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient venus à la fête. Donc ça paraît pour les lieux en contradiction avec ce qu'il vient de dire. Ça ne l'est pas. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Alors ça, c'est le style de Jean. Dès que Jésus a fait un geste à tel endroit, cet endroit est marqué par ce geste du Christ. Exactement comme dans l'Ancien Testament. Ça, c'est tout à fait la manière de regarder dans l'Ancien Testament. Quand Yahvé apparaît à Abraham à tel endroit, quand Yahvé apparaît à Adam à tel endroit, ce nom est appelé par la rencontre avec Dieu. C'est les rencontres avec Dieu qui donnent la signification à notre vie. C'est les rencontres avec Dieu qui donnent les significations qui nous font comprendre les divers moments de notre vie. Et les différents lieux de notre vie. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui et le prier de détendre et de guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Alors ça, c'est aussi très important de bien noter cela. Voyons très bien. Ce fils agonise, cet enfant agonise. Situation limite de l'enfant, qui est une promesse de vie. Situation limite de la famille. Cet homme, qui est un officier, va redevenir un père. À cause de la situation de son enfant. Mais à ce moment-là, il n'hésite pas d'entreprendre ce voyage de Capharnaüm à Cana. Il n'hésite pas d'aller au-devant de Jésus, lui qui n'est pas israélite, puisqu'il est officier royal, pour demander à Jésus la guérison de son fils. Et on voit comment la souffrance nous remet dans un état de pauvreté. C'est pour ça que Dieu permet la souffrance, pour nous mettre dans un état de pauvreté. Et si cet homme n'avait pas souffert, et souffert à partir de son fils, lui qui est officier, Donc qui a l'habitude de commander. C'est pas commode pour ceux qui ont l'habitude de commander, de demander. Parce qu'ils continuent de demander comme s'ils commandaient. C'est bien. Quelquefois, on demande en commandant. Et à ce moment-là, c'est pas une demande. C'est parce qu'on est très habitué de commander. Et c'est en ce sens-là que notre demande n'est pas efficace. Parce que ce n'est pas une vraie demande. C'est un commandement. Et c'est tout cela qui est marqué ici. Et qui est souhaitant. Parce qu'à travers tout l'évangile de Jean, comme à travers tous les évangiles, on retrouve toute une théologie de la demande. Faut pas oublier de la prière et de la prière de demande. Et là, c'est important de saisir ces différents endroits où on doit saisir ce que c'est que la théologie de la prière de demande. Et vous avez ici quelque chose de très très beau. Et on voit bien comment l'état d'agonie de l'enfant va remettre cet officier face à sa paternité. Il redevient un père parce qu'il souffre. Il redevient responsable de son enfant. Il n'hésite pas de faire cette démarche et de s'engager lui-même pour faire cette demande à Jésus, de reconnaître que Jésus est peut-être le seul qui peut l'aider. Et il a entendu dire que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en alla vers lui. Et il est prié de dépendre et de guérir son fils. Voilà un petit projet. Très facilement dans nos prières, nous avons un petit projet. Et nous voulons l'imposer. Nous voulons, alors on ne dira pas qu'on veut l'imposer, mais oui, nous voulons l'imposer, nous continuons de commander. Alors nous avons un petit projet. La meilleure chose, c'est qu'il vienne. Hein. Il s'en alla vers lui et le prier de défendre et de guérir son fils. Car il était sur le point de mourir. Donc il est grand temps. Il faut faire ça. Un petit projet à l'intérieur de la demande. Jésus donc lui dit, si vous ne voyez signe et prodige, je ne croirai pas. Jésus le corrige. Ça, c'est net. Jésus n'accepte pas tout de suite. C'est toujours comme ça que Jésus fait. Quand la demande qu'il le fait n'est pas faite dans l'humilité et la pauvreté. Jésus corrige. Il veut que nous demandions, mais il veut que nous demandions divinement. Et non pas impérativement. Parce que ce n'est plus une demande. Demander comme un officier peut demander, il continue de faire des ordres. Il est habitué. Et nous faisons tous ça, hein. Faut faire attention. Nous faisons tous ça. Si nous ne faisons pas vraiment attention, c'est très difficile d'ancrer vraiment dans la prière de demande, parce qu'il faut être pauvre. Alors, c'est rare qu'on est pauvre. Alors, comme on est pauvre, on demande en commandant. Et quand on demande en commandant, Jésus ne veut pas répondre. Et Jésus ne répond pas, parce que ce serait une fausse coopération. Ce serait accéder à quelque chose qui n'est pas vrai. On n'a pas le droit d'accéder à quelque chose qui n'est pas vrai. Et là, c'est ce qui explique comment, si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez pas. Cet homme manque de foi, c'est-à-dire de confiance. Cet homme se précipite sur les résultats. Il ne regarde que l'efficacité. Et c'est pour ça qu'il commande. Parce que dans un commandement, on regarde l'efficacité. Vous savez, un officier qui commande, il regarde l'efficacité. Tandis qu'un pauvre demande, ce n'est pas l'efficacité qui prime, c'est la confiance. Quand on veut accomplir quelque chose, on commande. Alors c'est l'efficacité. Tandis qu'au contraire, quand on demande, on ouvre son cœur, on expose sa misère et on a confiance. Et c'est la confiance qui domine. C'est la foi qui domine. Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez pas. L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Il y a une bonne demande, hein. Il y a une demande qu'on n'a pas, qui n'a pas exprimé, mais qui est facile à comprendre. Hein. On a exprimé son petit désir, on l'a dit, on l'a pas dit explicitement, mais il le priait de descendre et de guérir son fils. Voilà l'efficacité de sa demande. Hein. Jésus n'accepte pas. Si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez pas. L'officier royal lui dit, eh bien, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut, dans les dialogues, il faut entendre la manière dont c'est dit. Ça, c'est une herméneutique très particulière, hein, qui échappe au philosophe. C'est l'herméneutique musicale de l'Esprit Saint. Et l'herméneutique musicale de l'Esprit Saint, celui qui comprend, comprenne. Il faut comprendre de l'intérieur. Je crois que là, vous voyez, c'est le Seigneur descend avant même que mon enfant ne meure. Dans cette seconde demande, c'est la confiance qui domine. Et c'est pour ça que Jésus répond tout de suite. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Alors encore une fois, c'est très difficile puisque c'est explicité. Mais il y a quand même quelque chose de très net. Hein. C'est l'attitude du Christ qui nous fait comprendre l'attitude de celui qui demande. Toujours. Parce que c'est à partir du Christ que toute la révélation se comprend. C'est pas autrement. Donc c'est pas l'officier royal qui nous fait comprendre la qualité de la demande. C'est la manière dont Jésus répond qui nous fait comprendre ce qu'il y a de juste et ce qui n'est pas juste. C'est la seule manière d'interpréter. Alors d'un côté, Jésus répond, et de l'autre côté, il ne répond pas. S'il ne répond pas, ça prouve que la demande n'est pas vraie. Et alors nous pouvons à ce moment-là comprendre que le projet est premier et que la confiance n'est pas première. Donc l'efficacité est première et l'amour n'est pas premier. Tandis que dans la seconde demande, Jésus répond, va, ton fils vit. Et si Jésus répond, ça prouve que la demande est conforme à ce que l'Esprit Saint veut. Toute prière de demande, nous dit saint Thomas, est efficace. Toute prière de demande est efficace. Si c'est une prière de demande, parce que si c'est pas une prière de demande, et si c'est simplement un commandement, c'est pas efficace. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, quelle est la manière de prier vraiment? Quand on demande le beau temps, quelle est la prière, donc quelle est la manière de demander vraiment? C'est pas l'air de l'air, c'est évident. On est devant des épreuves, on demande au Seigneur d'être attentif et de faire attention, de ne pas laisser crouler sous le poids de la souffrance et de l'épreuve. Alors on peut regarder uniquement l'épreuve qui est là et l'efficacité d'être soulagé de cette épreuve. Et on oublie de regarder Jésus. Et quand on demande uniquement d'être soulagé de l'épreuve, c'est encore nous. On ne voit que soi. Et on oublie de regarder Jésus. Donc on oublie de prier. Prier, c'est s'adresser à Dieu. C'est s'adresser à Dieu, prier. Alors si on ne s'adresse pas à Dieu, on ne prie pas. C'est la fameuse définition, l'ancienne définition du catéchisme de prier. La prière est une élévation de notre âme vers Dieu. C'est très beau. Une élévation de notre âme vers Dieu. Élever son âme vers Dieu. C'est la prière. Si on n'élève pas son âme vers Dieu, on ne prie pas. Je crois que c'est pour ça. Seigneur, on doit élever son âme. Descend avant que mon enfant demeure. S'il n'y a pas cette élévation de notre âme vers Dieu, s'il n'y a pas cette attitude de confiance, que je disais tout à l'heure, la confiance, c'est-à-dire l'amour, par l'amour on s'élève jusqu'à Dieu. Si on ne regarde que le résultat immédiatement, on ne prie pas. Donc la prière n'est pas efficace, parce que ce n'est pas une prière. Toute prière de demande est efficace, mais il faut que ce soit une prière de demande. Il faut demander au Saint-Esprit de nous apprendre à demander. C'est l'Esprit Saint qui nous éduque à demander. Hein. Nous ne savons pas demander parce que nous sommes des hommes orgueilleux. Alors étant des orgueilleux, on ne fait pas demander, on sait très bien commander, du moins on croit, alors qu'on ne sait pas non plus commander, parce que quand on commande d'une manière telle que justement on ne regarde que l'efficacité, on ne commande pas vraiment. Demander, commander, ça soutient, c'est très curieux ça. Et ordinairement, c'est en demandant qu'on apprend à commander. Celui qui ne sait pas demander, ne sait pas commander. Vraiment, il ne sait pas vraiment commander, parce qu'on commande pour le bien de l'autre, et non pas pour notre propre bien. Et quand on demande, on regarde Dieu en premier lieu, on regarde son amour. Donc là, il y a tout un aspect de la théologie, hein, c'est de la théologie de la demande qui est très important à saisir. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit.